Bonjour, vous écoutez le podcast de l'APM. Aujourd'hui, nous accueillons David Lestoux, avec qui nous allons parler d'urbanisme et des commerces face aux nouveaux usages de consommation. David Lestoux accompagne les entreprises et les territoires dans leur stratégie de développement. Dans un monde en profonde mutation, il les aide à comprendre les nouveaux modes de vie des citoyens, puis à innover en partant de ces usages. Quel nouveau relais de croissance offre ces nouvelles tendances? Sur quel pilier miser pour se réinventer? On se posait déjà toutes ces questions avant la crise Covid-19. Autant dire que plus que jamais, elles sont au cœur des préoccupations des commerçants, des collectivités, même des citoyens qui changent leur mode de consommation. Bonjour David.
Oui, bonjour Rémi.
David, pour te présenter rapidement, est-ce que tu peux nous expliquer comment on devient expert en revitalisation des cœurs de ville?
On devient expert en revitalisation des cœurs de ville en expérimentant. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je fais ce métier-là. Dans un premier temps, on m'a beaucoup interrogé sur les mutations du commerce. On parlait du commerce de cœur de ville, avec souvent une réaction anti-grande surface, anti-périphérie. Puis en fait, au fil du temps, on s'est rendu compte que c'était pas le seul problème, qu'on avait un enjeu de réinventer le centre-ville au sens large, en parlant de commerce, en parlant d'habitat, en parlant de mobilité, et finalement qu'il fallait réinventer les centres-villes, non pas en cherchant à conserver les centres-villes d'hier, un peu dans la naphtaline, mais en construisant des centres-villes vraiment, véritablement adaptés aux nouveaux modes de vie. Et donc, notre positionnement, c'est de travailler sur la revitalisation des centres-villes, mais surtout pour imaginer les centres-villes de demain sans penser comme hier.
Alors, ouais, t'en as parlé. Il y a un des mots-clés, c'est les usages. On en parle beaucoup. Par rapport au commerce physique, quels sont les nouveaux usages et qu'est-ce qui a changé en profondeur ces dernières années?
Alors, déjà sur le commerce, on a vécu une période très particulière depuis 10 ans, puisque finalement, depuis 2008-2009 jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais construit autant de mètres carrés commerciaux, même dans les années 70, même dans les années 80, où on était dans une croissance très forte du commerce physique, eh bien, on construisait chaque année moins de mètres carrés commerciaux qu'on ne l'a construit ces 10 dernières années. Et donc, depuis 10 ans, on a eu une croissance sans précédent des mètres carrés commerciaux, et en même temps, un consommateur qui s'est mis de moins en moins à consommer dans les mètres carrés qu'on construit. Croissance du digital sur la même période, croissance de l'achat de ces produits alimentaires chez le producteur sur la même période, croissance des achats en biens d'occasion. Et tout ça fait finalement qu'on a un big bang du commerce qui s'opère avec une multiplication des offres commerciales et très clairement avec une offre qui est aujourd'hui devenue certainement supérieure à la demande.
Donc ça, c'est le principal facteur pour toi de la mutation?
Ouais, c'est le principal facteur, c'est que globalement, on n'a jamais eu autant de propositions marchandes pour un même consommateur.
Et alors, à quoi ils servent aujourd'hui ces mètres carrés marchands?
Ces mètres carrés marchands, justement, il va falloir les réutiliser autrement, puisque on voit que ce n'est plus la quantité de mètres carrés, ce n'est plus la taille de l'hypermarché, ce n'est plus la taille du pôle commercial qui ferait la différence, mais c'est la capacité à créer une affinité avec sa cible de clientèle. Et donc, il va falloir qu'on imagine comme ça un nouveau commerce où ce n'est pas la quantité d'offres qui fera la différence, mais c'est plutôt la manière dont on va créer une ambiance, dont on va générer de la convivialité, dont on va générer un lien affectif entre l'espace commercial, qu'il soit de périphérie ou de centre-ville, et le consommateur. Si on n'a pas ce lien affectif, si on n'a pas cette convivialité, si on n'a pas cette valeur complémentaire à la valeur froide des mètres carrés ou de l'offre, eh bien le consommateur, lui, il trouvera le confort, il trouvera d'autres réponses, et les réponses, il les trouvera dans son canapé à commander depuis sa tablette, son téléphone ou de son ordinateur.
Mais alors, on parle de multicanal aussi dans la relation du consommateur à sa marque ou à sa façon de consommer. C'est quoi le multicanal?
Le multicanal, c'est la capacité pour une marque, pour une enseigne, pour un commerçant, même indépendant, d'être présent sur tous les canaux de distribution. Et ça, c'est vraiment un marqueur. D'ailleurs, si on prend quelques exemples, si on prend l'exemple de la Fnac, que je prends souvent, qui nous dit, lorsqu'on les croise, qu'ils ont une caractéristique très intéressante sur leur marché, c'est que leurs ventes en ligne sont les meilleures sur les territoires où ils ont un magasin Fnac. C'est intéressant, c'est-à-dire que la présence du magasin physique stimule les ventes en ligne, Et de l'autre, il y a Amazon qui était vraiment un pure player, qui dit bah, pour soutenir un modèle de vente en ligne, on aura aussi besoin d'ouvrir des magasins, parce que si on n'a pas l'accroche magasin, si on n'a pas finalement la légitimité, la sécurisation du magasin, on aura du mal à booster les ventes en ligne. Et ça, c'est un nouveau facteur qui apparaît, on va dire, depuis 3-4 ans, et on est bien là dans l'ère du multicanal.
Mais est-ce que ça, c'est réservé aux grandes enseignes? Là, tu cites des grandes marques. On voit aussi dans les centres-villes que les enseignes qui résistent et qui occupent le plus les grandes rues, c'est bah, finalement partout les mêmes marques, et c'est des marques en général qui rayonnent à l'international. Est-ce que tout ce qui... Enfin, cette révolution digitale, est-ce que ça laisse des opportunités également pour les commerces plus indépendants et les plus petits commerces aussi?
Très clairement, c'est une opportunité, c'est une nécessité. Aujourd'hui, on a 80% des actes d'achat non alimentaires qui commencent par une recherche sur Internet. Autrement dit, que je sois grande enseigne ou petit commerçant en non alimentaire, si je n'ai pas de présence, si je n'ai pas de vitrine, si je n'ai pas cette mise en valeur de mon offre, de mon positionnement, etc., sur le digital, j'ai très peu de chances de capter. Sachant qu'en même temps, le digital, il change. Pour un commerçant indépendant, avoir un site de vente en ligne, c'est pas toujours ce qui est plus pertinent. Par contre, d'être présent sur les réseaux sociaux, d'être capable de partager des coups de cœur sur Instagram, d'avoir effectivement une présence sur Facebook ou sur d'autres réseaux, d'être dans les news sur Twitter, oui, là, il y a des leviers importants. Et la multicanalité, c'est aussi ça, c'est être capable d'être commerçant physique et de vendre éventuellement en ligne, mais c'est être capable de vendre en ligne, mais de se construire une image aussi sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et que finalement, on a aussi ce rôle d'influenceur du commerçant qui est essentiel à jouer pour demain.
Alors, le métier du commerçant, il bouge aussi, il change. Là, il y a des nouveaux modes, la livraison, le pick and collect, il y a une ère de la personnalisation aussi qui a permis le digital à fond. Est-ce que toi, tu as d'autres exemples d'usages qui ont changé ou de nouvelles pratiques là, qui sont en train d'émerger fort?
Ouais, il y a de multiples. Je dirais que finalement, on a cinq grandes transformations qu'il va falloir intégrer dans le commerce et d'ailleurs dans tous les domaines d'activité. C'est duplicable dans tous les domaines d'activité et c'est l'objet d'ailleurs de mes expertises au niveau de l'APM. Première transformation tout au moins, la transformation écologique. Ça va être une vraie transformation. C'est qu'aujourd'hui, le commerce, en particulier le commerce indépendant, n'a pas fait sa mue, n'a pas fait sa transformation écologique, n'a pas fait sa transformation dans sa responsabilité de choix produit à proposer aux consommateurs. C'est le rôle de sélectionnaire. Le commerce va devoir bosser sa responsabilité sociale et environnementale, CRSE, parce qu'on voit bien, et l'épisode Covid-19 va bien stimuler cette demande-là, d'avoir aussi un commerce plus respectueux demain. Donc, il n'y a pas que le digital, il y a cette transformation écologique. Il y a la transformation digitale, on l'a évoqué. Il y a une transformation servicielle qui est essentielle. Et là encore, la crise sanitaire que nous traversons nous montre bien quelque chose que l'on travaille, nous, au sein de l'agence depuis très longtemps, c'est qu'on pense que on va toucher la fin du modèle du libre-service qu'on connaît depuis les années 70. Je vais prendre un exemple. On a eu l'occasion de travailler au sein de l'agence pour McDo sur justement les nouveaux concepts de restaurants McDonald's, quels nouveaux services proposer, etc., aux consommateurs. Lorsqu'on a fait des tables rondes, lorsqu'on a interrogé des consommateurs sur, c'était il y a quelques années, il y a 4-5 ans, sur les besoins, les attentes, les aspirations, la première aspiration du consommateur, du client McDonald's, c'était de se faire livrer à domicile.
Et pourtant, eux, ils sont arrivés très tard sur la livraison à domicile. McDo, ils y sont allés parce qu'à un moment, ils ont été presque submergés par les autres acteurs qu'ils faisaient.
Exactement, exactement. Et c'est bien l'illustration du commerce serviciel. C'est que toutes les grandes enseignes vont s'y mettre. On a redécouvert, on a maximiser la découverte du drive, qui est une forme de commerce serviciel. On va découvrir dans les prochaines années le rôle de la livraison à domicile. Bon, moi, pour travailler régulièrement en Allemagne, aux Pays-Bas, etc., on se rend compte aussi qu'aujourd'hui, dans les nouveaux immeubles qui sont créés, on va retrouver des petites boîtes aux lettres mais on va trouver aussi comment dirais-je, des boîtes à courses réfrigérées sous la boîte aux lettres. C'est-à-dire des endroits où on va pouvoir se faire livrer ses achats, y compris en frais. Et donc, on va vraiment...
Parce que là, tu penses que... Pardon.
Oui, on va vraiment changer d'air à ce niveau-là.
Est-ce que tu penses que, justement, on va encore prendre une autre dimension avec l'après-Covid-19, là, qui donne... qui bouleverse encore plus, même ceux qui étaient réticents à ça, qui disaient bah oui mais je veux quand même privilégier le commerce en bas de chez moi ou celui d'à côté, je veux pas piller les emplois des caissières ou des gens qui font le rayon, qui remplissent les rayons, même les gens qui étaient pas convaincus par la livraison à domicile, là ils sont de fait obligés de bouger un petit peu là-dessus. Est-ce que toi ton intuition c'est que il va y avoir des conséquences sur l'amplification de ces usages-là après le Covid-19?
Oui, très clairement. De toute façon, c'est une trajectoire qu'on suivait, nous, déjà depuis 4 à 5 ans. Depuis 4-5 ans, moi, je travaille beaucoup cette question du commerce serviciel en se disant, voilà, dans les 5-7 ans qui viennent, on aura un développement. Alors, on voyait petit à petit les développements, c'est aussi la mode des Deliveroo, etc. Hein, on est dans cette dynamique-là. Et là, on va avoir une accélération. Une accélération, pourquoi? Parce qu'il y a le contexte sanitaire, mais laissons-le de côté. On a une problématique majeure en matière de commerce. C'est d'ailleurs le quatrième marqueur de la transformation, c'est la transformation territoriale. C'est qu'aujourd'hui, tout consommateur en France n'a jamais travaillé aussi loin de son domicile. C'est-à-dire que les trajets domicile-travail prennent de plus en plus de temps. Donc ce temps qu'on perd dans les transports, qu'on perd sur ce trajet domicile-travail, le consommateur va chercher à le récupérer sur autre chose. Il va chercher à le récupérer sur des choses sur lesquelles ça ne lui apporte pas beaucoup de plaisir. Mmh. Et d'ailleurs, si on regarde ça de plus près, cette question des actifs, on a mené une étude il y a quelques temps, une étude très simple. On a pris une feuille d'agenda, de semainier, et avec un stabilo jaune, on a stabiloté les périodes d'ouverture des commerces sur une semaine.
Oui.
Commerce de centre-ville. Et puis avec un stabilo rose, c'est pour vous dire la complexité de l'étude, on a passé au stabilo, sur cette même page, les périodes de disponibilité des actifs pour consommer. Et aujourd'hui, quand on regarde, bien les périodes de disponibilité des actifs ne coïncident qu'à 22% avec les périodes d'ouverture des commerces.
Ouais.
Donc on a un décalage.
Des commerces et des services en général, puisque même le service public, la poste, tous les services bancaires...
Complètement. Et c'est vraiment le changement, c'est bien la transformation territoriale, les trajets domicile-travail qui font que les actifs doivent consommer de plus en plus tard parce que l'impact des trajets, etc. Lorsqu'il n'y avait pas le digital, le consommateur faisait l'effort de s'adapter aux horaires d'ouverture des commerçants. Maintenant, avec le digital, le commerce est fermé, ben, je vais trouver une autre manière. La livraison à domicile éventuellement. Et c'est là aussi qu'on rentre complètement dans le multicanal dont on parlait tout à l'heure. Le multicanal, c'est être capable effectivement, classiquement, de faire de la vente en ligne peut-être, etc. Mais ça va être capable aussi de livrer son client de proximité pour tenir compte de ces évolutions-là. Donc cette transformation servicielle, ajoutée à la transformation territoriale et à la transformation digitale, bah, va nous faire naître véritablement une autre forme de commerce à imaginer pour les enseignes et pour les centres-villes. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que le commerce serviciel répond à un besoin de praticité. Je veux gagner du temps sur mes achats banals. Par contre, je veux gagner du temps du lundi au vendredi midi. Mais du vendredi après-midi au dimanche, ben j'ai envie d'une autre forme de commerce. Et c'est pour ça que du coup, je peux être très gros consommateur de drive, de services tels qu'on vient d'évoquer qui peuvent être un petit peu déshumanisés, mais en même temps, le week-end, je veux de la proximité. Je veux les halles, je veux les marchés, je veux mes commerçants de proximité, etc. Donc finalement, on aura un commerce de semaine très fonctionnel et un commerce de week-end qui sera plus un commerce certainement de convivialité, avec une dimension affective plus forte.
Alors, il va falloir ouvrir le dimanche ?
C'est une vraie question. Alors l'ouverture le dimanche, d'un point de vue simplement horaire d'ouverture, correspondance, on peut se dire oui, sauf que quand on regarde de plus près, L'ouverture du dimanche pose d'autres problématiques, hein, d'autres problématiques sociales, des problématiques potentiellement religieuses, des problématiques, on va dire, d'équilibre aussi de la société, d'égalité des citoyens au sein de la société. C'est des questions qui sont plus compliquées que la seule question des horaires d'ouverture, mais c'est certain que ça va être des secteurs sur des questions qui vont être très, on va dire, qui vont être au centre du débat, je pense, dans les prochains mois, parce que on aura des demandes de commerçants, on aura des demandes d'enseignes qui commençaient déjà à arriver avec les tensions économiques, hein, le groupe Casino qui dit moi mes magasins je veux les ouvrir le dimanche matin, etc. Ça va pousser très fort, je pense, de ce côté-là.
Bon, on est en plein milieu d'une révolution, alors c'est passionnant de vivre ça, en même temps c'est beaucoup de gros changements, donc on comprend que ça déchaîne les passions, que ça fasse peur. Pour finir sur un des sujets qui est un peu au cœur de notre actualité, hein, on enregistre là en plein confinement, donc on est à distance, on n'est même pas face à face, hein, donc merci d'ailleurs de jouer le jeu. La question des services médicaux et des fonctions médicales, comment tu vois l'évolution de ça post-Covid-19? On est face là à des choses qu'on n'avait pas imaginées, pas anticipées. Est-ce que tu penses que ça va avoir une incidence sur la suite? Et si oui, quelles sont les pistes, toi qui es aux avant-postes de tout ça dans la prospective, qu'est-ce que tu vois pointer?
Alors déjà, avant de parler des services médicaux, je vais remettre aussi au cœur de la réflexion, l'organisation de la ville. On a commencé à parler du commerce de centre-ville, des rapports centre-ville-périphérie, c'était le début de ce podcast. Quand on regarde bien, si on veut, et c'est comme ça qu'on travaille, nous, sur la revitalisation de centre-ville, si on veut qu'un centre-ville commercialement fonctionne, il va falloir qu'on travaille sur les quatre fonctions d'un centre-ville. C'est une méthode que j'ai créée il y a quelques années. Il va falloir qu'on travaille sur la fonction économique d'un centre-ville. La fonction économique d'un centre-ville, c'est le commerce, on l'a évoqué, mais c'est aussi l'emploi en centre-ville. On a eu un glissement depuis une vingtaine d'années des pôles d'emploi de plus en plus sur la périphérie, et finalement, les centres-villes, de taille de ville moyenne en particulier, manquent d'actifs en cœur de ville. Donc il faut travailler sur la fonction économique. Il faut travailler sur la fonction habitat. Parce que si on va sur des centres-villes de ville moyenne, on a aujourd'hui un habitat, c'est différent dans les grandes villes comme Lyon, Nantes, etc. Mais on a un habitat qui est souvent très peu occupé et que finalement le commerce de proximité de centre-ville manque d'habitants de proximité pour fonctionner. Donc ça, ça va être la deuxième fonction. La troisième fonction, c'est la fonction habitat, c'est-à-dire la fonction identité, pardonnez-moi. La fonction identité, c'est qu'est-ce qui donne envie de venir se balader dans le centre-ville? La déambulation, la place du piéton, etc. Le végétal, la place de l'enfant. Et puis, il y a une quatrième fonction, qui est la fonction service, dans laquelle je mets la fonction médicale. Parce que on note effectivement un glissement, au fil des années, des fonctions médicales vers les grandes périphéries de ville. Maisons médicales, les pôles de santé, etc. Et le centre-ville souffre très clairement aujourd'hui d'une insuffisance de professions médicales dans les cœurs de ville. Et si on n'a pas les professions médicales dans les cœurs de ville, on ne donne pas envie d'habiter les cœurs de ville. Et si on ne donne pas envie d'habiter les cœurs de ville, on ne permettra pas au commerce de fonctionner, on ne permettra pas non plus aux écoles de fonctionner dans les centres-villes, etc. Donc si on veut travailler les centres-villes, il faut travailler conjointement sur les quatre fonctions que je viens de vous citer. Et dedans, le médical prend toute sa place. Avec un médical qui va considérablement changer. C'est-à-dire que le médical du médecin généraliste ou même du spécialiste qui travaillait tout seul dans son cabinet, c'est une ère qui va progressivement être terminée, parce qu'on voit bien que par rapport aux évolutions sociétales, il va falloir davantage de coordination entre les pratiques médicales généralistes, spécialistes. Et donc on va se retrouver avec des pôles de santé qui vont émerger. Ça va être une nécessité. On va voir aussi émerger, il va falloir s'y préparer, toutes les questions de télémédecine. La télémédecine, on en parle depuis longtemps, bah oui, bah c'est l'épisode du Covid-19 qui fait qu'aujourd'hui, on va peut-être plus consulter son généraliste en télémédecine depuis chez soi, pour se protéger aussi des virus ambiants et pour plus de praticité.
Ah oui, puis on a vu des sites qui ont poussé ces derniers temps, qui permettent de faire les consultations à distance.
Exactement. Et donc finalement, on va avoir une autre forme de médecine qu'il va falloir organiser, une médecine d'un côté plus collective, entre guillemets, une médecine en même temps plus digitalisée. Et peut-être que dans des villes, demain, peut-être que dans des petites villes, on aura simplement des lieux d'accueil de la population. Le médecin sera sur une plus grosse ville Mais par contre, on aura quelqu'un qui sera là pour nous accueillir et pour nous mettre en connexion avec le spécialiste ou même le généraliste qui sera 10, 50, 100, 200, 300, 500 km plus loin.
Bon, bah donc pas mal de nouveautés, de choses à changer dans nos habitudes. David, cette interview se termine. Merci beaucoup pour cet échange. L'ambition de l'APM, c'est d'aider les entrepreneurs à se transformer, à créer de la richesse et à contribuer de façon positive au monde qui les entoure. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil en deux mots aux entrepreneurs qui veulent réenchanter l'expérience de leurs clients?
Juste de repartir de la dernière transformation dont je ne vous ai pas parlé, c'est la transformation sociologique. Repartir des habitants, repartir des usages, repartir des consommateurs et de bannir l'offre. De bannir les techniques de l'offre. La technique de l'offre, c'est de se dire tiens, je fabrique des crayons, comment je peux faire pour fabriquer moins cher des crayons? Non, le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est de se dire l'utilisateur, comment il utilisera un crayon demain? Est-ce qu'il l'utilisera pour écrire ou pour écrire sur du papier ou écrire sur une tablette tactile? C'est donc repartir des usages et de ne pas regarder son produit, mais surtout regarder comment son consommateur, comment son client vie et comment il va évoluer demain en saisissant des opportunités énormes. La senior economy, par exemple, c'est une opportunité énorme. On aura 40% de la population française qui aura plus de 60 ans dans 10 ans. Est-ce qu'on s'est préparé à ça? Est-ce qu'il n'y a pas là des opportunités à aller chercher? On a l'arrivée de la génération Z, c'est-à-dire les consommateurs qui sont nés, ou les habitants, ou les citoyens qui sont nés après 1996, qui est une génération hyper connectée et en même temps très attentive à l'environnement. Comment je vais la satisfaire demain? Donc repartons des usages et non de repartir du produit. Je crois que c'est la plus grande transformation, la plus grande gymnastique d'esprit à faire pour demain.
Merci David. On repart des usages et puis on va se tourner vers l'avenir pour bâtir un monde dès qu'on sortira de ce confinement. À très bientôt.